17h04. Merci encore beaucoup de réactions. C'est le cas à chaque fois qu'on reçoit le maire de la ville. Et c'est pourquoi je continue à persister et signer. Avoir un canal de communication avec le maire d'une grande ville comme la nôtre, c'est essentiel pour un média qui se dit d'information, de collaboration, de communication. Et pour les gens qui n'ont pas compris ce qui s'est passé à la fin de l'entrevue, c'est que le maire est toujours accompagné de quelqu'un qui fait en sorte qu'il doit respecter son horaire à
son
la
attaché.
Minute, à la seconde près. Oui, son attaché. Et moi, j'y fais des signes, tu sais. Il me reste combien de temps? Puis là, il me dit, il te reste 3 minutes. Fait que là, je dis, OK, il me reste 5 minutes. Puis là, il me dit, non, il te reste 3 minutes. Puis je l'ai niaisé de même pendant toute la demi-heure. Puis là, c'était fini. Là, j'avais vraiment tiré mon élastique, mais je voulais finir avec la petite question sur à quel point la politique fait vieillir. Puis je me suis dit, ça va juste être assez délinquant pour être toléré. Donc, si le maire ne revient plus à l'antenne de Boulevard 102.1, c'est parce que j'ai posé une question un peu philosophique à la fin de l'entrevue.
Ben,
on a été combien de temps là, avec le maire? 35?
35, oui, 35 minutes. Un bon temps pour Vril.
Oui, j'ai presque toutes posé les questions que je voulais. Je l'ai trouvé smooth aujourd'hui, alors qu'il y a des gros défis qui s'en viennent, moins sur la défensive peut-être que lors de ces dernières conversations. Je ne sais pas vous autres ce que vous en avez pensé.
Il était très relax, moi, ouais. Je le sentais très accessible. Il y avait plus l'air en mode les solutions sont déjà en route.
Parce que je sais
que les dernières fois, c'est comme s'il voyait qu'il y avait un beat de skipper la ville.
Moi, j'étais quand même très prête à faire un pôle et noter le nombre de. Est-ce qu'on peut faire mieux? Oui. Et,
on est trois.
Ah oui, t'as compté, j'allais dire, on n'en a pas eu, me semble.
Non, il y en a eu quelques-uns.
Ah oui, hein?
Oh, ouais,
bon,
ouais.
Je devais être pas assez attentif.
Est-ce qu'il y en a eu quelques-uns? Oui. Est-ce que t'es entendu? Non.
Est-ce qu'il y aurait pu en avoir plus? Oui.
Donc, des gros travaux, hein, des gros défis qui s'en viennent pour la ville de Québec. Et on verra comment tout le monde va évoluer là-dedans. Mais il y a quand même une portion de ce que j'appelle de la foi aveugle, de dire les gens vont s'ajuster. Ouais. Les gens, combien de gens? Je suis surpris d'apprendre qu'on n'a pas de chiffres sur la capacité qui doit être réduite de ce qu'on va appeler le flot de circulation du centre-ville.
Ça me surprend aussi.
Pendant les travaux, je me disais, il y a sûrement un chiffre qui circule, un genre de si on diminue pas de 20 % ça va être le bordel, ou de 30 % j'en ai aucune idée.
J'imagine
là.
Qu'on doit avoir l'achalandage moyen sur ces artères-là, particulièrement la portion est-ouest, là, dans le coin René-Lévesque, Grande Allée.
Ouais.
J'imagine qu'on connaît ces déplacements-là. Puis l'autre élément, c'est qu'il parlait, les gestionnaires vont faire preuve de jugement. Plein de monde qui ont reçu dans les dernières semaines leurs informations à l'effet que le télétravail s'était terminé, qu'on augmentait le nombre de jours en présentiel. Puis il n'y a personne qui a ajusté le tir alors que les travaux débutent dans quoi? Quelques semaines? Quelques mois selon les secteurs?
Dans les autres promesses et dans les autres engagements, je vais vous laisser vérifier. Mais moi, je peux dire une chose. Le maire Marchand a pris un engagement avec Gravel dans le retour. De venir une fois par mois jaser d'actualité. La première fois qu'il est venu nous voir, après sa première élection, il a tenu et il continue de tenir cette promesse-là. C'est tout à son honneur.
C'est surprenant qu'après la dernière fois, il a décidé de revenir. Il avait tellement l'air de ne pas avoir eu
de là. C'est toujours un pile ou face.
On le voit le mot dans sortant.
Oui, jusqu'à ce que ça devienne un pile ou pile. Là, il a-tu compris que j'ai pas de chat? On est correct, là?
Oh, oui.
OK, c'est beau. Parfait. Good.
Il a éclaté de rire.
Good. Peut-être regarder les autres nouvelles importantes de la journée, mais d'abord, coup d'œil à la circulation. Audrey.
Sur la capitale, direction est, auteur Robert Bourassa, ça n'a pas bouger direction ouest, c'est le bordel. Si vous êtes dans le coin de Beauport, à partir, je vous dirais, de Seigneurial, on sent un ralentissement jusqu'à Laurentienne. L'entrée des ponts, c'est difficile direction sud, surtout sur Henri IV à partir de chemin Sainte-Foy. Plus haut, Henri IV nord, dans le coin de Val-Bélair, à la hauteur de l'avenue industrielle, c'est toujours congestionné. Et la 20 direction ouest sur la rive sud, entre la route du président Kennedy et Taniata, difficile. Autre chose, 88-971-102 texto.
Véro.
On n'aura pas d'élection hâtive au Québec. Ça a été confirmé de part et d'autre par les deux candidats à la chefferie de la CAQ, donc Christine Fréchette puis Bernard Drinville, qui ferment la porte à cette possibilité-là. Ça aurait pu être dans les cartons, on l'a vu. C'est arrivé au fédéral, mais dans les deux cas, ceux-ci sont élus. Fait que celui ou celle qui va se ramasser à la tête de la CAQ sera premier ministre pour le temps que ça durera. Donc, à l'automne prochain, ce sera vraisemblablement élection générale et non pas avant ça. Il y a Paul Saint-Pierre Plamondon qui a dû répondre à ses détracteurs qui l'accusaient de reculer sur son engagement d'un référendum en premier mandat, si parfois il est élu justement lors de l'élection générale, c'est que suite à la partielle hier dans Saguenay où le PQ a encore réussi à faire élire une députée, il a dit qu'il avait rencontré des gens qui avaient véritablement peur du référendum. Donc là, on s'est mis à spéculer à l'effet que est-ce qu'on repousserait ça? Est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon attendrait la fin du mandat de Donald Trump pour avoir une période un petit peu plus stable où peut-être que les électeurs seraient plus ouverts à voter pour un référendum? Est-ce que aussi il y a peut-être la chienne que là, ça passe dans des partiels, mais quand viendra une élection générale, le vote se partage beaucoup plus justement à cause de cet engagement-là. Mais malgré tout, aujourd'hui, il a dit qu'il ne reculerait pas. Il y a le Parti conservateur qui a fini deuxième là-bas, qui estime qu'ils auraient de fortes chances d'aller chercher pas mal plus de députés à l'automne. Tu sais, je comprends que le Saguenay, ça a été un château fort péquiste pendant des années et des années. La CAQ avait réussi à faire une incursion, mais au fédéral, c'est quand même des conservateurs qui sont de ce côté-là. Mais ça a été une élection hier avec un taux de participation de 34,22%. C'est correct, mais ça apparaît qu'on se rapproche d'une élection générale puis qu'il n'y avait pas de grands enjeux qui polarisaient. C'est pas comme quand on a eu l'élection du côté d'Arthabasca il y a quelques mois à peine. Ce soir, 21h, c'est le discours de l'Union de Donald Trump qui recevait d'ailleurs de la visite cet après-midi, l'équipe de hockey américaine masculine.
Vas-tu être capable de le finir, son discours? Parce que c'est en site, là, le gars qui riait de Joe Biden chie dans ses culottes, se promène autour du podium, puis des fois, ça prend des gens pour le ramener vers le podium. Commence une présentation, l'interrompt, s'en va. Donald Trump est vraiment sur le déclin et ça décline vite, les copains.
Je ne sais pas s'il y a des paris qui ont été ouverts à savoir si elle est capable de battre un record de longueur de discours pour son discours sur l'État de l'Union. C'est lui qui le détient. En mars dernier, il avait parlé pendant plus d'une heure 40 minutes.
S'il s'endort pendant le discours, ça compte-tu pour du temps?
Ah, c'est une bonne question, mais là, ils n'auront pas le choix. Ils vont le réveiller, là, ils vont le taiser ou quelque chose du genre.
Ben, sérieux, c'est pas chic.
C'est parmi les sujets qui risquent d'aborder l'économie, l'inflation, les tarifs douaniers. T'sais, il est à son plus bas en frais de taux de satisfaction depuis son élection. Les tensions entre son pays et bien sûr l'Iran, la question du Venezuela et de la gouvernance, sa politique migratoire. Puis reste à voir s'il profitera du moment pour envoyer une coupe de pointe au Canada, là encore par rapport au hockey.
Thank you. Il est 17h12. Courte pause. On revient avec notre chum Alex Leblond.
Je vous demande de vous arrêter.
Ben voici Alex Leblond.
Ben oui, 5h20, on jase avec Alex Leblond, planificateur financier. Monsieur Leblond, bonjour.
Salut.
Comment est-ce qu'il va?
Ça roule,
ça. Oui, ça va. Toujours des grosses journées quand on reçoit le maire en studio. Pour les gens qui l'ont manqué, c'est déjà disponible sur le blvd.fm et sur l'application Boulevard.
C'est sur la chaîne YouTube également, si jamais vous voulez l'image, mais je dois vous dire que pour cette vidéo-là, par exemple, vous allez avoir le son des caméras.
Petit problème technique,
clair.
Ouais.
Oh. Des problèmes techniques. Ceci dit, l'entrevue est là au complet.
OK. Puis là, ceux qui vont se brancher sur le Twitch, ils vont-tu avoir une qualité sonore étincelante? Là, parce que quand on parle de finances, il faut comprendre ce que les gens disent, là,
oui.
Parce qu'en ça, on ne comprend rien.
Oui. Moi, ce que je comprends,
ce que je comprends, c'est que le directeur technique ne fait pas sa job.
Bien, c'est une façon de le voir. Je sais que tu le connais bien.
Tu cherches à perdre un ami, Alex?
Peut-être poliment le rappeler à l'ordre là, quand tu vas le croiser tantôt, puis vous allez dire des niaiseries que vous ne pouvez pas dire en nombre.
Oui.
tu as lu un texte en fin de semaine qui remet un peu en question tout ce qu'on peut dire et tout ce qu'on peut percevoir sur les jeunes qui ont ça rough présentement dans leur début de vie.
Ouais. Puis c'est intéressant. Okay? C'est une chronique qui a été publiée en fin de semaine dans la presse par Marie-Ève Fournier, qui prend des récents chiffres de l'Institut de la statistique du Québec qui vont comme un peu à l'encontre de ce qu'on entend dans le discours populaire là, sous l'effet que okay, ben, les jeunes ont une situation financière particulièrement plus difficile que par le passé. Précaire, beaucoup moins facile pour eux que pour les générations précédentes.
Plus difficile d'avoir une maison, d'accéder à la propriété.
Ouais.
On compare avec quelle génération?
Ben, en fait, on recule, là, mettons, on prend, disons, les 35 ans et moins, puis on regarde, OK, c'était quoi le portrait des 35 ans et moins en 99, en 2000, différentes...
J'ai tellement hâte de t'entendre là-dessus parce que moi, j'ai l'impression que des jeunes actuellement, quand j'avais cet âge-là, je me payais pas de voyage de même. Je me payais pas un char de ce type-là. Je me payais pas des appartements comme ceux-là. J'étais en colocation. Fait que j'ai vraiment
les priorités,
d'entendre
peut-être, hein?
Les priorités ou encore les ce qui est souhaité. Là. T'sais, on aspire à quoi? Je pense que, disons que la réalité puis la vraie vie, c'est peut-être pas la même affaire. Là.
Fondamentalement, Alex, la situation financière des jeunes, ça s'est amélioré ou ça s'est détérioré sur 20-25 ans? Là?
Ce que les données de l'Institut de la statistique du Québec nous disent, puis ce qui a été répertorié dans l'article, c'est que ce qu'on entend publiquement, puis ce que les chiffres disent, ça connecte pas, là.
Okay.
Il y a une grosse dichotomie entre les deux. La valeur nette des ménages de 35 ans et moins, là. Fait que ce qu'ils valent, là, tout ce qu'ils ont, moins ce qu'ils doivent, là. Fait que la valeur nette a triplé depuis 2005. Fait que c'était 80 207 en moyenne en 2005. Puis là, c'est rendu 215
220. C'est ça en dollars absolus, ça, ou...
Ouais, l'inflation compte pas là-dedans.
Okay.
Parce qu'on ramène tout ça en dollars de 2023.
Fait
que, justement, tout ce qui est coût de la vie, c'est pas inclus là-dedans. Puis c'est fou, là, parce que quand on demande aux jeunes, dans des sondages, presque la totalité d'entre eux disent que leur propre situation ou la situation de leur génération s'est détériorée.
Mm-hmm.
Par contre, quand on regarde leurs chiffres, on se rend compte que ça dit exactement le contraire. Fait que c'est ça qui est intéressant là-dedans. Puis quand tu regardes, OK, chez les 35 ans et moins, tu vois que... Il y a comme, OK, c'est quoi le pourcentage des gens de 35 ans au moins qui ont, mettons, un pré-étudiant? Bien, tu vois, en 99, là, ou du moins en 2005 plutôt, c'était essentiellement 1 sur 3 qui avait un pré-étudiant. C'est rendu plus bas que ça, c'est rendu 24
hein?
Au niveau de la résidence principale, bien, en 2005, c'était 1 jeune sur 4 qui avait une maison, là, qui était propriétaire, 25. Là, c'est rendu 44.
Hey, c'est surprenant,
c'est
ça.
C'est gigantesque comme chiffre.
C'est
ça.
Rendu presque 1 sur 2. Ils ont plus de REER, plus de comptes CELI.
Moins de dettes.
Moins de dettes
oui,
de consommation.
Oui, mais prenons leur argent. C'est-tu que les salaires ont explosé? Je comprends pas.
Bien, il y a ça, c'est une partie. Tu sais, autant on a parlé. Puis ça, c'est toujours la même affaire. Ce qu'on entend publiquement, puisque les données officielles démontrent, c'est constamment exactement le contraire.
Mais comment t'expliques ça? C'est une mauvaise perception que les jeunes se font dans leur tête de dire « Bien, vous autres, vous avez tout eu, vous avez été gâtés, vous n'avez pas eu l'inflation, on a plus d'incertitudes » ou ça part de d'autres choses, ou il y a peut-être des zones d'ombre aussi dans les données là, qu'on voit peut-être pas?
Ouais, il y a quelque chose là-dedans là, qui est... Tu sais, les statistiques, là, ça nous dit, mettons, OK, c'est quoi le pourcentage de jeunes qui ont des dettes de consommation? Fait que là, on voit, OK, ben en 2005, c'était 72. Là, c'est rendu plus 68. OK, il y a moins de jeunes qui ont de dettes de consommation. Par contre, pis ça, c'est vrai sur quasiment toutes les stats d'endettement, là, oui, il y en a moins qui en ont. Mais ceux qui en ont, ils en ont vraiment plus.
OK. Okay.
Les marges de crédit sont plus grosses. Les soldes sur les cartes de crédit sont plus gros.
Ceux qui en arrachent plus.
C'est la minorité qui crie plus fort, dans le fond?
Exactement. Puis des fois, on parle l'espèce de principe d'économie en K. Là. Il y a comme, tu sais, pense à la lettre K. Là. Il y a une partie qui part vers un bord, puis l'autre s'en va de l'autre bord. Là.
Mm-hmm.
Il y a comme cette réalité-là qu'on voit dans la société, mais qu'on voit particulièrement chez les jeunes. C'est-à-dire que ceux pour qui ça va bien, ça va vraiment bien. Puis ceux pour qui ça va mal, ça va vraiment mal. Fait que quand tu creuses dans les chiffres, oui, le portrait est plus rose que... ce dont on entend parler peut-être au quotidien dans notre entourage puis ce qu'on voit dans les médias traditionnellement, mais il y a comme ces deux extrêmes-là qui se côtoient présentement.
Il y avait une réalité dans les chiffres quand tu regroupes tout le monde au Canada qui disait que l'écart entre les riches et les pauvres s'était agrandi, mais que le nombre de pauvres s'était agrandi aussi,
augmenté,
si
ouais.
On regarde toutes les générations. C'est peut-être ça qui nous poussait à croire que tu avais plus de jeunes qui étaient dans le trouble qu'avant aussi. Là.
Oui, puis on s'entend, c'est toujours la même chose. Là. Vous savez c'est quoi? Là? S'il y a un avion qui atterrit tantôt à Jean-Lesage, c'est pas une nouvelle. Là. Il y en a 50 des avions qui vont atterrir là. Là.
Ouais.
S'il y en a un qui se crache, c'est une pas pire nouvelle.
Exact.
Là, soudainement... Hey, c'est un Boeing, ça? C'est-tu safe, Boeing? Ah, mm. Puis l'aviation, c'est-tu safe?
La spirale qui vient avec. Là.
C'est une anomalie statistique. Mm-hmm. Mais des fois, fait, le point, c'est que des mauvaises nouvelles d'un point de vue économique, on va toujours en parler plus. Fait que si tu regardes les nouvelles économiques, ben, ce que tu vois souvent, c'est mauvais, mauvais, mauvais. Le monde s'endette, le monde ne va pas bien, le monde ne sont pas capables de chercher des maisons, les prix augmentent. C'est une réalité qui existe, oui, mais qui n'est pas nécessairement représentative de... la situation du Québécois moyen ou du Canadien moyen.
Dans tes chiffres, Alex, est-ce qu'on le voit le game changer entre des jeunes qui vont bien puis des jeunes qui vont pas?
L'étude, tu sais, l'Institut de la statistique, souvent, ils vont pas émettre d'hypothèses. Eux autres vont te donner à dope, là, puis arrange-toi avec ça. Là.
Interprète,
ouais. Ouais, exactement. Moi, dans ma pratique, là, surtout chez les jeunes, là, je vois comme deux affaires, OK? Premièrement, on parlait de dette, là. Ceux qui ont eu un régime épargne-études, okay? Que leurs parents, quand ils étaient jeunes, mettaient de l'argent là-dedans, qui sont faits payer essentiellement à leur cégep, qui sont faits payer essentiellement à leur université, eux autres partent dans la vie avec un avantage majeur.
Peux-tu faire une interprétation?
Vas-y.
Si tes parents ont mis un REE quand tu étais jeune, probablement que tu as eu une éducation financière plus importante que des parents qui n'étaient pas sensibilisés à ça?
C'est très possible.
Sur l'épargne, puis sur l'endettement, l'éviter le plus possible. Puis j'ai l'impression que ça vient tout ensemble. Tu as la chance que tes parents paient tes études, tu n'as pas de dette. Là, arrange-toi pour que ça continue de même.
Ben oui, puis à seconde, tu sais, mettons que tu regardes les stats, là, le prêt étudiant moyen, c'est 12 000 $ à peu près. Mais tu as seulement 24 % des jeunes qui en ont un. Fait que ça veut dire que ceux qui en ont un, ils en ont un pas pire, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent baisser la moyenne. Là. Fait que, tu sais, le jeune qui arrive, il finit ses études à, whatever, là, 22 ans, qui, lui, a de l'argent disponible, bien, s'il y a un prêt étudiant, bien, il y a une partie de l'argent disponible qu'il a qui va aller mettre là-dedans. Là, fait que cet argent-là, c'est pas une mise de fonds pour une maison, c'est pas un projet, c'est pas de l'épargne retraite. L'argent qu'on redonne à RBC et à Desjardins, là, on fait rien avec cet argent-là. Là. Alors que le jeune qui en a pas, ben lui, la première pièce disponible qu'il a,
il peut
aller mettre ailleurs. Ouais. Fait que ça a l'air de rien, là, mais c'est un edge significatif. L'autre chose, c'est que on regarde les chiffres de propriété. Là. Puis oui, il y a 25 % des jeunes qui avaient une maison en 2005, alors que là, c'est rendu 44 %. Il y a une affaire dont on ne parle pas souvent, mais qui est maintenant, il y a beaucoup plus d'aide pour l'achat d'une première propriété que c'était le cas à l'époque.
Ça te donne des accès que tu n'aurais pas eu auparavant.
Au Canada, maintenant, là, c'est grosso modo un jeune sur trois qui reçoit de l'aide de ses parents pour l'achat d'une première propriété. Fait que c'est 31 % exactement, là, pour être têtu sur le chiffre. Savez-vous, c'est quoi le montant moyen de l'aide qui est donnée?
C'est combien?
C'est 115 000
$. Tabarouette!
Fait qu'on s'entend. Le jeune qui reçoit 115 000 $ de ses parents pour sa
ça
maison.
Ça part bien en vie.
Mon guess, c'est que lui, il s'est fait payer ses études aussi. Fait que, tu sais, lui, il se ramasse avec deux passes
d'où
sur la palette plutôt qu'une. Fait que l'écart vient se creuser, entre autres, là. Le 115 000 $, là, il faut le mettre en contexte, par contre, là, parce que c'est une statistique qui est canadienne. Fait qu'on a déjà parlé ensemble, là. À seconde où on parle d'immobilier, les stats canadiennes, il faut comme y faire attention un peu, là. Parce qu'il y a le marché de Toronto, le marché de Vancouver, puis dans une moindre mesure, le marché de Montréal, que c'est pas Saint-Marc-de-Carrière. Saint-Marc-de-Carrière, à 115 000, tu peux acheter le quartier au complet.
Un point intéressant, Alex, que tu voulais partager avec nous autres, c'est que il y a une notion qui se perd, qui fait peut-être en sorte que les jeunes s'avantagent. C'est que des nonos comme moi qui restent fidèles à un employeur pendant 24 ans, mettons, là, il y en a de moins en moins.
Oui, exactement. Puis ça, justement, quand je suis allé creuser, puis ça, c'est pas l'Institut de la statistique qui avance ça, mais je suis allé creuser un petit peu sur c'est quoi qui explique l'écart, pourquoi les jeunes, puis parce que tu le vois aussi là, dans l'augmentation du salaire. Le salaire des jeunes augmente plus rapidement que celui des vieux. Fait qu'il accumule plus de richesses que, ou du moins, il accumule la richesse quand on compare à ce que leurs parents faisaient.
Oh oui.
Il accumule la richesse plus rapidement. Puis un des principaux éléments derrière ça, c'est justement le fait que cette espèce de notion-là que l'amélioration de ses conditions passe par la loyauté envers son employeur. Ben,
je travaille 20 ans à la même place, je vais monter les échelons, je vais faire plus de salaire que si je recommence à zéro ailleurs.
Ouais, les jeunes ont sacré un coup de batte de baseball dans cette notion-là. Puis moi, je le vois dans ma clientèle des fois. Là. J'en ai un présentement, un cas où la personne est presque à la retraite. Elle se fait traiter vraiment comme de la chenoute par son employeur. Là. Ça fait 30 ans qu'elle est là, ses conditions sont vraiment bof. Tu sais, il n'y a aucune raison logique de rester là. Mais pour elle, elle a grandi avec cette notion-là.
Elle ne se voit pas ailleurs.
C'est l'employeur, il a donné une opportunité, elle est redevable, puis elle est prête à accepter n'importe quoi pour rester là. Alors que les jeunes, mettons que la corde est moins longue. Là. Puis, ultimement, les statistiques nous démontrent que c'est eux qui ont raison.
Bien, le marché de l'emploi a tellement changé sur 20 ans. Tu sais, il y a 20 ans, tu avais une job, tu étais content, tu la gardais.
C'est un privilège d'avoir
un
une job.
C'est un privilège d'avoir un emploi.
Moi, j'ai grandi là-dedans au Saguenay-Lac-Saint-Jean,
quand
toi aussi.
Quand j'ai fini mon bac en communication, là, le nombre de personnes qui ont été capables de se placer en communication rapidement était minuscule. Maintenant, le marché de l'emploi fait que les employés ont le gros bout du bâton versus les employeurs. Fait qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi sur le marché.
Si longtemps,
ça fait 5-10 ans peut-être.
Ben, à peine, parce que moi, mettons, il y a 15 ans, quand j'ai été porter mes premiers CV, là, J'avais hâte que le boss me rappelle au téléphone, puis je relançais, puis je retournais serré à main, puis j'avais mes petits papiers, mes CV en papier.
Alors que si Audrey Pinchot avait 15 ans aujourd'hui, là, quoi que c'est moins vrai maintenant dans la région de Québec, là, c'est comme, moi, je veux pas travailler les vendredis, samedi soir.
Ouais,
puis,
je veux un salaire de tel dollar, puis oh, on n'est pas à une place.
Hey, je m'étais fait refuser au sushi shop, moi.
Arrête.
Pour vrai?
Je voulais rien savoir.
Je me suis fait renvoyer de l'aubainerie.
Oh, mais tu parlais trop.
Les gros coming out. Hein?
Renvoyer.
C'était tellement rough, Alex.
C'est quoi t'as fait?
Je parlais trop aux clients.
Ça peut-tu être plus Audrey que ça?
Hey, je tenais un sacré bon service, mais moi, ils voulaient de moi que je plie le linge.
Parce qu'il faut que tu vendes aussi.
Ben, je comprends.
Hey, à l'époque, si on monte aux années 90 au Saguenay, là, vous savez c'est quoi actuellement? McDo embauche, puis c'est des gros salaires pratiquement pour le type d'expérience que tu as à l'origine. Nous autres, dans le temps, là, c'était assez choyé pour que tes parents aient un contact, puis que tu rentrais, tu étais la royauté de l'école secondaire. Là. Ouais. Tellement que c'était
bon
sur le CV,
rare,
là. Ah ben Alex, tu viens de sacrer une coupe de coups de pied sur bien des perceptions qu'on a puis des préjugés qu'on entretient nous autres aussi là, en jasant d'actualité.
Ben, de plus en plus, on voit ça. Hein. Il y a autant sur les marchés boursiers que sur toutes les données d'emploi, les données relatives à la richesse au sens large. Ce qu'on entend comme dans les chaumières, ce que les statistiques officielles nous démontrent, c'est foncièrement différent. Enfin, je ne sais pas pourquoi exactement.
Je trouve ça fascinant, par exemple.
Ben, moi aussi, parce qu'il y a comme un gros écart. Puis justement, l'article de la presse en fin de semaine, il s'est comme promené un petit peu là, sur les Reddit de ce monde. Puis tout le monde était comme « Ah, c'est de la merde! » C'est pas vrai. Parce que eux, leur situation, c'est pas ça. Ou ce qu'ils entendent...
Quand c'est pas ta réalité, ça n'existe pas. C'est de même qu'on a commencé le show aujourd'hui.
Oui, aujourd'hui, ouais.
Ouais, le fameux « Il n'y a pas de famine en Afrique, j'ai déjeuné un matin. »
So, il n'y a pas d'explosion à Puerto Vallarta parce que moi, dans mon quartier, il n'y en a pas. Là.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est spécial, puis ça va partout, tu sais, l'achat de propriété, je veux dire, ça fait un an qu'on fait rien que dire ça, là,
ouais.
Que c'est plus, que c'est, ça n'a jamais été aussi peu accessible pour les jeunes générations. Puis...
Ben moi, en finissant, là, par rapport justement au clash des générations, là,
ouais.
Parce que les X, on va promener les boomers, puis les Z, on va promener les X.
Les pirates sont devenus des boomers,
ouais.
Pire que les boomers.
Exact.
Ouais.
Quand on regarde les chiffres précisément, là, l'achat d'une maison, là, c'est extrêmement difficile pour les jeunes aujourd'hui. Il y a plus de jeunes qui réussissent à le faire. Ça ne veut pas dire que c'est facile pour autant. Mm-hmm. C'est pas ça la conclusion.
Il y a plus d'aide.
C'est extrêmement difficile d'acheter une maison aujourd'hui en 2026 pour un jeune. C'était extrêmement difficile pour leurs parents d'acheter une maison et c'était extrêmement difficile pour leurs grands-parents d'acheter une maison. On ne peut pas regarder le prix d'un bungalow à Charlebourg en 77 avec nos yeux de 2026. C'est un non-sens économique. Il y avait 11 000 piastres qui rentraient dans la maison. Là. Il y avait
un salaire souvent. Puis...
Avec des taux d'intérêt de 18%. Ouais. Fait que quand on regarde, la donnée importante, c'est vraiment, OK, c'est quoi le pourcentage de l'argent disponible qui est dédié à l'hypothèque? Puis on l'a déjà fait, cet exercice-là.
Ouais.
Ce montant-là est à peu près constant au fur et à mesure qu'on avance dans les générations. Fait que c'est tough aujourd'hui, c'était tough hier, ça va être tough demain. Fait qu'il faut juste comme arrêter d'envoyer promener les générations précédentes en disant qu'ils l'ont eu facile. C'est juste pas vrai, c'est tough pour tout le monde. Tout le monde a de la misère, fait que encourageons-nous ensemble.
Tout le monde est malheureux tout le temps. Merci, Alex Leblon.
C'est un beau message d'espoir.
Alex Leblon, planificateur financier, 17h36.
Gravel, retour avec Denis, Véro et Audrey.
Hey Véro, petite question télé pour me diriger correctement. Vous êtes à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour. Quand quelque chose est présenté à Illico Plus,
ouais.
C'est où que ça s'en va après? Parce que je ne paierai pas pour Illico Plus.
Ça peut s'en aller sur une des chaînes spécialisées qui se retrouvent sur le groupe TVA. Ça peut s'en aller à TVA
okay,
ou
c'est
encore
TVA.
Au 900.
Ouais. OK, c'est le tout.tv extra de TVA.
Si on veut, ouais.
OK, parce que le gars qui a fait le documentaire « Qui a tué les expos? » Jean-François Poisson, qui a fait de l'excellent travail.
Vraiment,
là.
C'était vraiment bon.
Documentaire moderne, bien fait, avec plein d'intervenants intéressants, certains haïssables. C'est disponible sur Netflix. Va parler du plus grand scandale sanitaire de l'histoire du Canada dans un nouveau documentaire qui va être présenté à partir de jeudi sur Illico Plus, puis je veux absolument voir ça. C'est le scandale du sang contaminé.
Oh mon Dieu, oui!
Un documentaire donc de Jean-François Poisson qui s'appelle « Du sang sur les mains ».
Audrey, t'as-tu déjà entendu parler de ça?
Bien là, vite de même, je comprends un peu le principe. Mais...
Au début des années 90, Audrey, environ 1200 Canadiens en grande proportion hémophiles ont contracté le VIH parce qu'on a été négligent en toute connaissance de cause. Le corps d'entre eux n'a pas survécu. Le sida se traite bien de nos jours. Il était mortel pour beaucoup de personnes atteintes à l'époque. Et la série documentaire de 4 épisodes est un condensé donc de 4 heures, très bien documenté. Puis on parle de ce qui s'est passé ici au Canada, mais aussi du côté de la France, parce qu'il y a eu des victimes des deux côtés, avec les compagnies pharmaceutiques, la Croix-Rouge chez nous et le Centre national de la transfusion sanguine en France. Pour bien des victimes, tout part des capsules de facteurs 8 concentrés que s'injectaient elles-mêmes les personnes hémophiles pour régulariser la coagulation de leur sang. Un petit miracle pour les malades qui leur permettait à enfin de livrer un semblant de vie normale. Mais il y a des milliers de ces capsules-là qui se sont avérées contaminées par le virus du sida et l'hépatite. L'histoire est épouvantable, mais quand tu sais qu'on a décidé d'écouler les stocks restants pour épargner de l'argent...
Hey, ça, je savais pas.
En
ça,
toute inhumain. Connaissance de cause... C'est la presse française qui a révélé ce scandale-là au grand jour, qui a de l'air sorti d'un film de science-fiction, du sang sur les mains, donc du même gars qui a fait le documentaire sur les expos. On en dit beaucoup de bien dans le journal Le Soleil aujourd'hui. Puis on a tenu ces patients-là dans l'ignorance, hein, puis on
pendant
a laissé
temps,
aller
hein?
les choses longtemps.
Sens.
En plus de continuer de leur administrer le sang contaminé, les médecins choisissent de tenir leurs patients dans l'ignorance et de laisser aller. Le genre de réflexion qu'on peut entendre, là, c'est « qu'est-ce que ça changerait? Ils sont vieux, ils ne doivent plus avoir de rapports sexuels de toute façon. » Puis on dit qu'il y a tellement eu d'improvisation autour de ça. On voit quelqu'un qui a été informé qui avait du sang contaminé puis qui avait contracté le sida alors qu'il venait de faire un enfant avec sa femme.
C'est terrible.
Puis qui a été tenu dans l'ignorance pendant des mois. Donc, lui, quand il a eu des relations sexuelles pour avoir un enfant, il était atteint du virus du sida puis il n'était pas au courant. Là, lui, il est chanceux, entre guillemets, évidemment, parce que sa femme n'a pas été contaminée puis son enfant non plus. Mais c'est des histoires qui donnent froid dans le dos, du sang sur les mains. Je veux absolument qu'on se tienne au courant quand ça va être accessible.
Absolument.
En attendant, pour les gens qui ont Illico Plus, c'est disponible à partir de jeudi. Si vous avez le luxe de l'écouter, là, des bons documentaires, j'en veux plein. Là.
Ça avait tellement amené de changements, parce que comme tu mentionnais, c'était la Croix-Rouge qui gérait ça d'un océan à l'autre. C'est ce qui avait donné la création d'Emma Québec.
Exact.
Puis il avait fallu faire des campagnes pour que les gens cessent d'avoir peur de donner du sang.
Ben pourquoi les animateurs et les animatrices radio pendant des années ont participé aux cliniques de sang? C'était pour passer le message que c'était safe,
safe de donner du sang.
Ben
ouais.
oui. Donc ils plaçaient beaucoup d'argent à Emma Québec justement pour dire qu'on n'était plus dans ces pratiques-là et dans ces eaux-là. Malgré le fait que pendant un certain temps, il y a certains préjugés qui sont demeurés là, sur qui pouvait donner du sang.
Là, ça a changé quelque peu avec les années. Puis on fait de meilleurs tests, puis on vérifie mieux. Puis
ben oui.
La donne a changé, mais l'origine de tout ça, c'est effectivement ce scandale-là.
T'as une suggestion streaming
oui,
pour nous?
Oui, tu sais, quand on arrive avec une première saison qui est vraiment bonne, la deuxième sort, puis on est comme, yes, j'ai peur qu'il soit allé trop vite. Je vous ai déjà parlé de la série Paradise sur Disney+, qui est sortie l'année passée, qui met en vedette, entre autres, Sterling K. Brown, James Marsden. C'est un président américain qui choisit un gars de sa sécurité pour en faire son chef de sécurité. Puis là, tu comprends pas trop pourquoi. Puis il y a du mystère à travers tout ça. Et la série mystérieuse se transforme carrément en série dystopique. Je veux pas trop vous en dire parce que dès le premier épisode, c'est une claque d'en face, c'est un coup de poing. Puis chacun des épisodes, t'as le goût de continuer tout de suite l'épisode suivant. Et quand la saison 1 s'est terminée, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour une saison 2? Ça peut pas être à la hauteur. Les critiques de la saison 2, dont les premiers épisodes sont maintenant disponibles sur Disney+, sont meilleures que la première, en disant que c'est encore plus intelligent, les mystères sont encore mieux ficelés, c'est encore plus captivant que la première. Denis, je pense que t'aimerais beaucoup
ben, ça m'intrigue.
Ouais.
Juste pour répéter l'intrigue, c'est un gros tweet de président américain qui engage un gros tweet comme chef du FBI, qui fait honte à la nation entière.
Non, ça c'est un documentaire.
En étant sa brosse pendant la finale américaine aux Olympiques.
Ça, c'est un documentaire.
Ah, ça, c'est la réalité. OK, ouais, excuse-moi.
C'est pas la même affaire.
Plus ça va, plus je mélange les deux et je trouve ça triste.
Non, Paradise est beaucoup plus intelligent. Fait que si vous avez aimé la première saison, lancez-vous dans la deuxième. Si vous ne l'avez pas regardé et vous cherchez quelque chose d'un petit peu mystérieux, lancez-vous là-dedans, c'est sur Disney+.
Moins 18 et venteux ce soir. 2 cm de neige demain. 2 cm de plus la nuit de mercredi à jeudi. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Ensemble, prenons soin des autres. Tu me fais des drôles de face, Audrey, mais moi, je m'en vais. Fait qu'on se reparle demain.
Bye.
Salut.